et Sylvain et Timothée à l'Assemblée des Thessaloniciens, en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus-Christ. Grâce et paix à vous. Verset 17. Or, pour nous, frères, ayant été séparés de vous pour un temps, et de visage et non de cœur, nous avons d'autant plus, avec un fort grand désir, cherché à voir votre visage. C'est pourquoi nous avons voulu aller vers vous, moi, Paul, et une fois et deux fois, et Satan nous en a empêchés. Car quelle est notre espérance, ou notre joie, ou la couronne dont nous nous glorifions? N'est-ce pas bien vous, devant notre Seigneur Jésus à sa venue? Car vous, vous êtes notre gloire et notre joie. C'est pourquoi, n'y tenant plus, nous avons trouvé bon d'être laissés seuls à Athènes, et nous avons envoyé Timothée, notre frère et compagnon d'œuvre sous Dieu dans l'évangile du Christ, pour vous affermir et vous encourager, touchant votre foi, afin que nul ne soit ébranlé dans ces tribulations, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Car aussi, quand nous étions auprès de vous, nous vous avons dit d'avance que nous aurions à subir des tribulations, comme cela aussi est arrivé, et comme vous le savez. C'est pourquoi moi aussi, n'y tenant plus, j'ai envoyé afin de connaître ce qui en était de votre foi, de peur que le tentateur ne vous eût tenté, et que notre travail ne fût rendu vain. Mais Timothée venant d'arriver de chez vous auprès de nous, et nous ayant apporté les bonnes nouvelles de votre foi et de votre amour, et nous ayant dit que vous gardez toujours un bon souvenir de nous, désirant ardemment de nous voir, comme nous aussi nous désirons vous voir, et c'est pourquoi, frères, nous avons été consolés à votre sujet par votre foi. Dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 2, au verset 19. Or, j'espère bien dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée, afin que moi aussi j'aie bon courage quand j'aurai connu l'état de vos affaires. Car je n'ai personne qui soit animé d'un même sentiment avec moi pour avoir une sincère sollicitude à l'égard de ce qui vous concerne, parce que tous cherchent leurs propres intérêts, non pas ceux de Jésus-Christ. Mais vous savez qu'il a été connu à l'épreuve, savoir qu'il a servi avec moi dans l'Évangile comme un enfant sert son père. J'espère donc l'envoyer incessamment quand j'aurai vu la tournure que prendront mes affaires. En l'épître au Corinthiens, premier épître aux Corinthiens, premier épître aux Corinthiens, chapitre 4, verset 17. C'est pourquoi je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et qui est fidèle dans le Seigneur. Il vous fera souvenir de mes voies en Christ, selon que j'enseigne partout dans chaque assemblée. Ils en tiendront là. Oh, c'est quelques simples pensées à propos de Timothée que j'ai à cœur d'exprimer et aussi brièvement que possible. Hier, nous avons été entretenus de la seconde épître à Timothée, et tout particulièrement des expressions d'encouragement que l'apôtre donnait du fond de sa prison, et alors qu'il attendait le supplice, à son cher enfant Timothée, l'enfant dans la foi. Les dernières lignes que la parole nous est conservée, écrites par l'apôtre, la dernière épître est adressée à Timothée. La dernière épître. Et nous avons trouvé dans la première épître aux Thessaloniciens mention de Timothée, une des assez nombreuses mentions que nous trouvons concernant ce cher serviteur de Dieu dans le Nouveau Testament. Et la première épître aux Thessaloniciens, c'est la première épître que l'apôtre Paul ait écrite, ou du moins la première qui nous soit conservée. Et au point de départ, nous trouvons ainsi Timothée qui a une place particulière. Et ce que je voulais souligner, c'est que Timothée avait été employé par l'apôtre pour fortifier, pour encourager, pour soutenir au milieu de tribulations nombreuses, douloureuses, dangereuses, ces chrétiens de Thessalonique qui étaient chrétiens depuis peu de temps et contre lesquels l'ennemi s'acharnait. C'était le début ou presque de la carrière de Timothée. On va entrer dans de longs détails sur la vie de Timothée. Je dirais simplement souligner cela, c'est que jeune encore, serviteur de l'apôtre, pris par lui comme collaborateur, comme nous le voyons dans le chapitre 16 des Actes, il a pu être employé par le grand apôtre pour soutenir la foi d'éprouver, de persécuter pour le nom du Seigneur Jésus. Savons de Timothée, cela nous a été rappelé hier, d'après ce que nous trouvons dans le premier chapitre de la seconde épître, que fils d'une femme juive croyante, il avait été enseigné par sa grand-mère Loïs et par sa mère Eunice dans les Saintes Écritures, probablement d'abord à titre juif et ensuite à titre chrétien, puisque sa mère était une femme croyante. Comment, quand avait-il été converti? Cela ne nous est pas dit. Invisible du dehors, nous ne le savons pas. Est-ce que ça avait été une conversion brusque, attirant l'attention Nous ne le savons pas. Ce qui est certain, c'est que il avait reçu de bonne heure, étant jeune encore, les enseignements de la parole que Paul prêchait. Il avait été témoin des persécutions que l'apôtre avait subies antérieurement à ce chapitre 16 des Actes, qui nous est rapporté dans le chapitre 14, à Iconium, à Derbe, à Lystre, et l'apôtre le rappelle dans la seconde épître à Timothée. Et il avait un bon témoignage, il avait donc été témoin de du témoignage rendu par l'apôtre, par le grand apôtre. Il s'était attaché à lui à n'en pas douter, mais lui-même avait un bon témoignage, nous est-il dit dans le chapitre 16 des Actes, des frères. Il avait reçu un don, le corps des anciens lui avait imposé les mains en reconnaissance de ce don. L'apôtre, plus tard, avait imposé les mains également, dans cette même reconnaissance de ce que le Saint-Esprit lui avait donné, et c'est ce don qu'il lui recommande de ranimer dans le passage qui nous a été lu hier. Mais il avait un bon témoignage, nous est-il dit, de la part des frères. La parole avait produit ses fruits en lui, non seulement pour la conversion, pour le salut, pour la vie nouvelle, mais pour une marche fidèle dès son jeune âge. Et c'est pourquoi nous le voyons choisi par l'apôtre, emmené avec lui, et son compagnon désormais dans une grande partie de l'existence de l'apôtre. C'est remarquable de voir comme nous le trouvons associé à l'apôtre. Et il est même touchant de voir comme d'abord l'apôtre le désigne expressément comme un collaborateur, un associé avec lui, un compagnon travail, des expressions diverses le concernant. Elles pourraient être examinées en détail, elles sont intéressantes, mais retenons simplement qu'il vivait ainsi près de l'apôtre. L'apôtre peut-être ajoutait son nom au sien dans la souscription de plusieurs épîtres. Cette épître aux Thessaloniciens, la seconde épître aux Thessaloniciens, l'épître aux Philippiens, l'épître aux Colossiens, c'est la seconde épître aux Corinthiens, Paul et Timothée, Silas ou Timothée, suivant le cas, mais Timothée. Quelqu'un qui avait vu de près ce que c'était que la vie dont hier aussi nous a été rappelée ce qu'elle a été, celle du grand apôtre qui avait tout abandonné lorsqu'il avait été saisi par Christ. Tout abandonné, non pas seulement ce que le monde pouvait lui donner, mais avait abandonné ce qui tenait à lui-même, et qui n'avait eu désormais qu'un seul objet, Christ. De sorte que, à l'exemple de celui qu'il avait le privilège de servir et d'accompagner, Timothée avait lui aussi ce seul objet, et cette seule pensée, servir Dieu, servir Christ, glorifier le nom de Christ. Il était associé, et il a été toujours davantage associé à la sollicitude de Paul pour tout ce qui concernait les saints. Et le passage que j'ai lu dans l'Épître aux Philippiens est particulièrement caractéristique à cet égard. Je n'ai personne qui soit animé d'un même sentiment avec moi pour avoir une sincère sollicitude à l'égard de ce qui vous concerne. Pourquoi ? Parce que, alors que d'autres cherchaient leurs intérêts, lui cherchait les intérêts de Jésus-Christ, comme l'apôtre lui-même. Il était beaucoup plus jeune, certainement, que l'apôtre. Je n'ai pas dit de combien. L'apôtre en parle comme son enfant dans la foi. C'est par le mystère de l'apôtre qu'il avait été converti. Et une affection particulière dans le Seigneur les liait. Mais combien il est beau de voir ainsi ces deux serviteurs étroitement unis malgré les différences que leur origine, leur don, leur âge, d'autre part, pouvaient créer. Ils avaient un seul objet. Ils avaient un seul but. Ils couraient vers le même but. L'un et l'autre, ils avaient été saisis par Christ et ils poursuivaient, cherchant à le saisir. Timothée était sans doute d'un autre tempérament que l'apôtre Paul. Il nous apparaît timide et faible quant au caractère. Quand, n'est pas lu, mais dans la fin de l'épître, la première épître aux Corinthiens, il est parlé de lui. L'apôtre parle de lui aux Corinthiens en disant, si Timothée vient, ayez soin qu'il soit sans crainte au milieu de vous, car il s'emploie à l'œuvre du Seigneur comme moi-même. Que personne donc ne le méprise, mais faites-lui la conduite en paix, afin qu'il vienne vers moi, car je l'attends avec les frères. Ce serviteur d'un autre qui était le serviteur hautement honoré de Christ lui-même, les deux servant à leur place. N'est-il pas beau de voir cela? Et Timothée employé, je reviens à l'épître aux Thessaloniciens, employé presque dès le début par l'apôtre pour aller, lui faible, lui timide, lui jeune, que personne ne méprise ta jeunesse, lui qui semblait avoir besoin d'être continuellement encouragé, envoyé pour fortifier ces Thessaloniciens dans l'épreuve. Une émanation de l'apôtre Paul, on peut dire. Recevez-le comme moi-même, dit-il à une autre assemblée. On parle beaucoup des conflits entre générations. On oppose et de nos temps. On oppose la jeunesse et les gens d'âge, d'un certain âge et d'un grand âge. On parle de besoins particuliers de la jeunesse que les plus âgés ne comprendraient pas. C'est l'esprit de tous les temps, il faut bien le dire. Il y a toujours eu entre la jeunesse, nous avons été jeunes et nous savons ce que cela représente. Il y a toujours eu entre la jeunesse et les gens plus âgés des différences qui ne peuvent pas être comblées, c'est évident. Mais d'un côté, la pensée que l'on sait beaucoup de choses que les plus anciens n'ont jamais connues. Les anciens, souvent, ayant tendance à considérer de plus jeunes comme fermés à bien des choses sur lesquelles leurs yeux sont ouverts du fait d'expérience, tout cela est de tous les temps. À notre époque, nous savons combien ce conflit, ou du moins ces différences, sont devenus les éléments d'un véritable conflit, d'une opposition, la contestation de la jeunesse. Eh bien, lorsqu'il s'agit de christianisme, de vie chrétienne, qu'il s'agit de service du Seigneur, ô chers amis, à quelque âge que nous soyons ici, il y a une unité qui est faite par la personne bénie que nous avons tous à servir à la place où il nous a mis, selon ce qu'il nous a conféré comme don, peut-être comme qualification, comme service, selon les directions que nous avons à chercher en regardant en haut, dans la dépendance du Seigneur, dans l'obéissance au même esprit. Un même Seigneur, une même foi, une même espérance, un même salut. Il en était ainsi entre Paul, le grand apôtre Paul, le grand héros de la foi, et Timothée, le timide Timothée que Paul pouvait envoyer pour en fortifier d'autres. Puissions-nous nous encourager mutuellement. Mieux que cela, Timothée, nous l'avons vu dans l'épître aux Philippiens, est envoyé à Philippe pour prendre connaissance de l'état des choses à Philippe, mais pour rapporter des nouvelles à l'apôtre et encourager l'apôtre. J'espère vous envoyer bientôt Timothée afin que moi aussi j'ai bon courage. De même aussi, dans sa mission envers les Thessaloniciens, envoyer là-bas l'apôtre restant à Athènes puis allant à Corinthe pour encourager ses chers Thessaloniciens, il devait revenir apportant ces bonnes nouvelles qui réjouissent le cœur de l'apôtre. Heureux service, mais dans une communion qui est bien propre à nous faire désirer qu'elle soit réalisée entre toutes les classes, en pensant aux âges, n'est-ce pas, ceux qui se trouvent ici et qui connaissent le Seigneur. Que nous ayons tous une même pensée et la même sollicitude à l'égard des bien-aimés du Seigneur, et le même souci quant aux assemblées et quant aux témoignages. D'accord aussi, et chacun à notre place, chacun à notre place. Timothée n'a jamais eu la pensée d'égaler l'apôtre Paul et de se substituer à lui. Mais Paul est heureux d'employer Timothée comme à sa place pour l'envoyer. Et on le voit dans la première épître à Timothée particulièrement. Qu'il y ait cette unité et dans le Seigneur. Toutes les autres choses, et tout ce qui est objet maintenant de contestation dans le monde, hélas, qui risquent de se glisser dans les rapports des croyants eux-mêmes, entre jeunes et plus anciens, dans les familles elles-mêmes. Tout cela, ce sont des choses terrestres. Ce sont les intérêts terrestres. C'est le moi. Ce sont les choses ici-bas, tout ce qui est étranger à la vie de Christ. Si nous cherchons notre propre intérêt, évidemment, nous serons, d'une manière ou de l'autre, opposés à ceux qui nous entourent. C'est la source de toutes les difficultés, toutes les querelles, toutes les conflits, toutes les guerres. La parole peut le dire. Les voluptés qui combattent dans nos membres. Eh bien, au contraire, en Christ, il y a cette unité du travail, l'unité de la collaboration. Mais, combien il est frappant, et instructif aussi, de voir que, à la fin de la carrière de l'apôtre, c'est-à-dire environ une quinzaine d'années plus tard, pas davantage, quinzaine d'années après qu'a été écrite la première épître aux Thessaloniciens, l'apôtre Paul, en son cachot à Rome, pendant sa condamnation, a besoin de Timothée pour venir le consoler, l'encourager. Empresse-toi de venir auprès de moi, dira-t-il à la fin de son épître, dans le dernier chapitre. Empresse-toi de venir avant l'hiver. Apporte-moi ceci, cela. Mais j'ai besoin de te voir. Il y avait pour Timothée cette précieuse part à la portée, comme l'avait fait Onésiphore, qui n'avait pas eu honte de la chaîne de l'apôtre et qui l'avait cherché soigneusement et l'avait trouvé de le consoler. Et l'apôtre trouvait, d'autre part, assurément, beaucoup d'encouragement pour lui-même et de consolation en pensant qu'il y avait au moins, dans ces temps où il était abandonné d'un si grand nombre, et où il voyait peu à peu grandir ce qui allait caractériser les temps fâcheux et tout ce qui allait marquer toujours davantage et la ruine de cette Église à laquelle il avait consacré tant de travaux, tant de peines, pour laquelle il avait subi tant de combats. Pensez qu'il y avait quelqu'un qui était au fait, au courant de tout ce qui occupait ses propres pensées. Et tout qu'il savait parfaitement ce qui occupait son cœur. Il peut lui rendre ce témoignage que, c'est ce qu'on trouve au chapitre 3 de la seconde épître, « Toi, tu as pleinement compris ma doctrine, ma conduite, mon but constant, ma foi, mon support, mon amour, ma patience, mes persécutions, mes souffrances. » C'était une pensée précieuse pour l'apôtre, très précieuse. Et ce n'est pas seulement que Timothée avait pu servir l'apôtre, être son messager et encourager d'autres de la part de Paul. Mais tu as pleinement compris ma doctrine, toute la doctrine, pas seulement l'évangile, l'appel aux âmes, très important à sa place, il devait faire l'œuvre d'évangéliste, mais toute ma doctrine. Et quelle doctrine? Le nom de Timothée est associé à l'épître aux Colossiens. Quelle épître aux Colossiens. Quelle doctrine. Et que la doctrine de l'épître aux Colossiens, avec toute la grandeur et de la personne de Christ, la grandeur de son œuvre, et tout ce qui concernait l'assemblée, Timothée était parfaitement au courant de tout ce que Paul avait reçu. Il était son confident. La première épître est là pour nous le dire d'une manière particulière. Tu as pleinement compris ma doctrine. Tu pouvais s'adresser à lui en toute confiance dans le Seigneur, sans doute, mais aussi sachant qu'il y avait là un esprit et un cœur et une conscience exercée qui pouvait pleinement comprendre. Et alors, il peut lui dire, oui, je désire ardemment te voir, je me souviens de toi dans mes supplications, je me rappelle ma foi, etc. Et tu vas venir, empresse-toi, j'ai besoin d'être consolé par toi. Mais il peut lui dire aussi, voilà, moi j'ai fini ma carrière. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, désormais m'est réservé la couronne de justice. Le temps de mon départ est arrivé, je sers déjà de libation. Toi tu restes, et je te laisse au milieu des combats. Je te laisse en présence tout ce qui est propre à te décourager. Mais toi, attirer l'attention, et hier aussi, sur ce, mais toi, endure et les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste. Et tout ce que l'apôtre lui dit, tous les encouragements qu'il est appelé à lui donner, se résument en ceci. Tiens ferme ce que tu as reçu de moi. Cette doctrine que tu as pleinement comprise, garde le bon dépôt. Ne permets pas que la moindre atteinte y soit portée. Ce que tu as reçu de moi, promets-le à des hommes fidèles qui puissent à leur tour en instruire d'autres. Oh, que ce précieux dépôt de la parole ne soit pas, et un modèle des saines paroles que tu as entendues de moi dans la foi et dans l'amour et qui est dans le Christ Jésus. Et ne permets pas qu'il soit porté atteinte à ce dépôt-là. Et c'est cet apôtre qui vient fortifier, lui qui avait tellement besoin d'être encouragé, fortifié, qui vient fortifier de loin un seul enfant, Timothée. Celui qu'autrefois, il a envoyé pour en fortifier d'autres dans les persécutions. Oh, tu as besoin maintenant d'être encouragé toi-même, mais quelle plus grande parole pourrait lui être dite que celle que nous trouvons là. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est dans le Christ Jésus. Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts. Voilà le secret de la force. Et l'apôtre Paul, encourageant ainsi son cher Timothée, pouvait dire qu'il savait plus que d'autres de quoi il parlait. Timothée avait eu bien des occasions de voir l'apôtre encouragé, fortifié au cours de sa carrière, Mais maintenant, quel sera le dernier mot, l'un des derniers mots de l'apôtre? Le Seigneur m'a fortifié. Dans le dernier chapitre, verset 17, n'est-ce pas? Tous m'ont abandonné, que cela ne leur soit pas imputé. Mais le Seigneur s'est tenu près de moi et m'a fortifié, afin que par moi, la prédication fût pleinement accomplie et que toutes les nations l'entendissent. Le Seigneur me délivrera de toute mauvaise œuvre et me conservera pour son royaume céleste, à lui la gloire au siècle des siècles. Ainsi, Paul, qui attendait de la venue de ce consolateur, Timothée, des encouragements particuliers, nous n'en doutons pas, l'encourager de son côté. Jeunes gens, jeunes chrétiens, oh bien-aimés, jeunes amis auxquels nous pensons tellement et si souvent et constamment. Encouragez ceux qui sont devant vous, ceux qui sont sur le penchant de leur carrière, sur ceux qui, si le Seigneur tarde, bientôt ne seront plus là. Encouragez-les par votre foi pratique, par la confiance que vous-même mettez dans le Seigneur. Fortifiez-vous vous-même dans le Seigneur, dans la grâce qui est dans le Christ Jésus. Il n'y a pas d'autre secret de la force. Elle est là. Il nous a été rappelé hier que nous n'avions pas à perdre courage, quoi qu'il en soit, des temps que nous traversons, de l'état du monde, de l'état du témoignage, de tout ce que nous avons sujet et de confesser, dont nous avons à gémir. Ne perdons pas courage, encourageons-nous les uns les autres, et que nous sachions, nous plus âgés, être pour vous jeunes. Des instruments du Seigneur pour vous dire non. Il n'y a pas lieu d'être découragé parce que le Seigneur est toujours le même. Que ce soit le témoignage, un aspect du témoignage que nous avons à rendre au milieu du monde actuel, que cette unité, qui est l'unité de l'esprit, garder entre les générations. L'exhortation nous est présentée d'une manière générale, d'une manière absolue pour tous, mais à notre époque, c'est une des choses auxquelles nous avons à prendre garde. Qu'il n'y ait pas, qu'il ne se glisse pas dans l'assemblée de Dieu, qui ne se glisse pas dans le témoignage du Seigneur, ce qui est en train de détruire dans le monde ce que Dieu avait permis qui fût constitué comme une société fondée entre autres sur la famille. L'attaque de l'ennemi se multiplie à cet égard. Ne pensons pas qu'il y ait une vie chrétienne pour la jeunesse, une vie chrétienne pour l'âge mûr, une vie chrétienne pour la vieillesse. Sans doute, il y a l'expérience que nous devons acquérir. Il y a la nécessité pour les jeunes d'apprendre avant et de vouloir agir et d'apprendre au pied du Seigneur et d'apprendre de lui-même. Tout cela est vrai. Il y a certainement, et la parole est là, les exhortations pratiques des Colossiens, des Éphésiens et autres sont là pour nous le dire. Il y a des besoins et des exhortations qui sont particuliers aux âges divers et aux relations diverses. Tout cela est parfaitement à sa place. Mais l'unité, je le répète, se retrouve dans la personne bénie du Seigneur Jésus et dans cette unité de l'Esprit qui est le même, qu'il agisse dans un jeune croyant, qu'il agisse dans un chrétien âgé, le même Esprit auquel nous avons affaire dans nos cœurs, la place la plus large, la grande place qui permet au Seigneur lui-même de remplir le cœur. Qu'ayant la même espérance, ayant le même objet, ayant au cœur le même amour, ayant la même vie, il soit vu, il soit connu, que l'unité de la famille de Dieu, l'unité de l'assemblée, ce n'est pas une vue théorique, ce n'est pas un mot, ce peut être une réalité visible. Et s'il y avait parmi ceux qui m'écoutent, et particulièrement parmi les jeunes, encore des personnes qui, bien que connaissant ces choses, ayant une certaine connaissance des saintes lettres, et qui pourraient en parler peut-être comme nous en parlons, n'ont pas reçu la sagesse à salut parce que leur cœur est resté fermé et parce que leur conscience est cuirassée contre la parole de Dieu. Alors, nous vous demandons de considérer ce qu'il en a été de Timothée et comment, étant jeune, ayant reçu un enseignement dans sa famille, de la part de sa mère, de sa grand-mère, loin de les mépriser, comme actuellement c'est si souvent le cas, ils ont fait, selon l'exhortation de Salomon, selon l'exhortation des Proverbes, ils ont écouté l'enseignement. Timothée a écouté l'enseignement de sa mère, l'enseignement de ses femmes pieuses. Il n'a pas traité cela de choses anciennes, bonnes, pour les générations précédentes. Il les a de bonne heure reçues par la foi. Et il est devenu alors ce serviteur dont le nom reste associé au grand serviteur Paul, associé par conséquent au maître commun, la personne bénie, glorieuse, la personne bénie du Seigneur Jésus. Fortifie-toi dans la grâce qui est dans le Seigneur Jésus. Souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts. Celui qui était allé vers les Thessaloniciens et qui avait travaillé d'ailleurs à Thessalonique aux côtés de l'apôtre Paul avait à leur redire, à leur rappeler qu'ils s'étaient tournés des idoles vers Dieu pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité d'entre les morts, Jésus qui nous délivre de la colère qui vient. Et c'est toujours la même personne, la personne du Fils de Dieu, la personne du Fils de l'homme, Jésus-Christ, le même, hier, aujourd'hui, éternellement.